Lundi 9 juin 1997, cours Raveman sur Shirashirim, au centre du Frénois.
Yafa Enaïr Yonim. Mibad Tsamater, Saarer Kederaizim, Shigalshu, Me'ar Gilad. Alors, on va essayer de comprendre. Inach Yafa, te voici belle. Ra'ayati m'accompagne. Inach Yafa, te voici belle. Enaïr Yonim. Enaïr, tes yeux. Yonim sont pareils à des colombes. Miba'ad le tsamater. À travers, en français ça s'appelle le fanchon, je crois. Le fanchon. C'est un foulard que les dames juives devraient avoir sur la tête. Saarer, ta chevelure, que Eder Aizim. C'est comme le troupeau des chèvres chez Galchou et Argilad lorsqu'elles descendent du mont Gilad. Voilà. Cette traduction. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Avant, il s'agissait de l'adresse du peuple juif à Kadosh Baruch Hu. On parlait Bamener Shlomo, Apirion, Asam, Udavasa Kesef, Tzenare Labinot Yerushalayim, Bamener Shlomo. Ça, c'est la réponse. Alors, Inach Yafa Ra'ayati, te voici belle, Inach Yafa. Lorsqu'il y a marqué deux fois Inach Yafa, il est évident que, une fois, c'est la proposition, et après, ce sont les raisons. En quoi? Donc on dit, Inach Yafa Ra'ayati, te voici belle, ma compagne. Inach Yafa, voilà pourquoi tu es belle. Et Naïr Yonim Mibad, le Tzamater, Saarer Kederaizim. Et Naïr Yonim. Enaïm, ce sont les yeux, et Yona, c'est la colombe. Vous savez que, dans la Torah, lorsqu'on parle de Enaïr, Enaïm, les yeux, il y a Ve'im me Enea Eda, les yeux du peuple juif, c'est le Sanhedrin. Ce sont les Chachamim. Donc, Inach Yafa et Naïr Yoni. Yona, c'est la colombe. Elle est citée parmi les oiseaux ou les animaux du fait de sa fidélité. C'est-à-dire que la Yona, elle n'a qu'un compagnon. Elle n'a qu'un benzoug, on appelle ça en hébreu. Elle ne pratique pas la polie, je ne sais pas comment on appelle ça. Mibad le tsamater, par en dessous du fichu ou du voile, saarer kederaizim. Ici, c'est l'image. Ce sont les troupeaux qui descendent du mont Gilad, où on voit le blanc qui est éclatant. C'est-à-dire que même qu'il y a quelque chose qui couvre, on peut remarquer que ça a l'air, ta chevelure, est éclatante. Après, on essaiera de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de la chevelure en dessous de ce qui la recouvre. On verra dans les prochains versets qu'on va parler souvent ou du simple juif, ou du juif qui ne pratique pas du tout la Torah. Après, on verra, il y a marqué que Pelach Harimon Rakater. Pelach Harimon, c'est une partie d'une grenade. Rakater, tes pommettes. Le Midrash dit Rakater, ça vient du mot rek. Afelou reikanir shebar meleim mitzvot kerimon. Même les vides du peuple juif sont pleins de mitzvot, comme la grenade. Donc ici, c'est la même idée. Mibad le tzamater, malgré que ce soit couvert et qu'on s'en aperçoive pas toujours, mais ça a l'air que les raizim shigalchum et argilat, ta chevelure, et éclatante, comme cette couleur du blanc qui est éclatante lorsque le troupeau descend du mont Gilad. Qu'est-ce qui couvre et qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas l'éclat? Vous savez que d'ici, de ce verset, la Gemara dans le traité de Ketubot tire le din de Sehar Beisha Erva, c'est-à-dire que la chevelure est considérée comme une nudité, et de même que on n'a pas le droit de lire le chemin devant quelqu'un qui est découvert. On ne peut pas dire des livres de Torah devant quelqu'un qui n'a pas la tête couverte. C'est de là, de Sarer Kederazim chez Galjou, parce qu'il y a marqué Mibahad le Tzamater. Qu'est-ce que c'est ce inyan de couvert et de pas couvert, découvert? Il y existe une halakha qui est écrit dans la Gemara, dans le traité de Bava Batra et dans le traité de Rosh Hashanah. Cette halakha est la suivante. Celui qui donne de la tzedaka, almenat sheyich yebeni, il a un enfant malade et il donne de la tzedaka à condition sheyich yebeni, que son fils vive. C'est une halakha qu'on apprend de Yaakov Avinu. Mikan shenodrim be'et sara. Quelqu'un qui a une sara, il fait un éder, il fait un vœu de faire une mitzvah. Donc la Gemara dit à Omer, c'est la zeli tzedaka al menat sheyich yebeni. Cette pièce-là, je la donne à la tzedaka. Mais attention, je ne donne pas n'importe comment. Je donne la condition que mon fils se rétablisse. Arizé tzadik gamour. C'est un tzadik. Le contraire, Boumot Aolam. Le contraire chez le non-juif. Si il donne de la tzedaka avec des conditions, alors à ce moment-là, ça n'est pas une mitzvah. Rashi dit, quelle est la différence? La différence vient du fait que le juif, même si les conditions ne se réalisent pas, il ne regrette pas sa mitzvah. Alors que le non-juif, lorsqu'il avait une condition, c'est une vraie condition. Moi, je donne la condition. Si la condition ne s'est pas réalisée, j'ai été volé. D'où est-ce qu'on apprend ? On apprend ça de Shlomo HaMelech, le roi Salomon, que lorsqu'il a inauguré le Beth Amidash, il a adressé une prière à Kadosh Baruch Hu. Il a demandé que tout non-juif qui vienne au Beth Amidash et qui fasse une prière, elle soit exaucée. Alors que les juifs, non, c'est pas obligatoire que ce soit exaucé. Parce qu'un juif, quand c'est pas exaucé, il ne regrette pas son sacrifice ou sa prière. Alors que le non-juif, il vient et il regrette. Ça, c'est le texte de la Gemara dans le traité de Rosh Hashanah, traité de Bava. La question se pose. Pourquoi est-ce que quelqu'un a besoin de dire, puisque de toute façon tu veux faire une mitzvah, et tu dis même si ma prière n'est pas exaucée, c'est pas grave. Moi, je suis d'accord de donner la tzedaka sans condition. Alors, c'est comme ça, pourquoi tu fais une condition ? Comprenez la question ? Arei sela zu li tzedaka al menat shiriveni. Je donne ton et ton la tzedaka à condition que mon enfant guérisse. Si en vérité, tu es prêt à donner la tzedaka, même sans aucune condition, c'est pour ça que si jamais tes conditions ne se réalisent pas, tu ne regrettes pas la mitzvah. Alors pourquoi est-ce que lorsque tu as une prière à adresser, pourquoi tu fais une mitzvah? Dissocie les deux. Quand tu as envie de donner la tzedaka, tu donnes la tzedaka. Tu as envie d'adresser une prière à Kadosh Baruch Hu, tu adresses une prière à Kadosh Baruch Hu. Mais ne lis pas les deux. Parce que le fait de lier les deux, maintenant on est obligé de dire, mais tu sais, un juif, c'est pas vraiment qu'il a lié les deux. Ah, puisque c'est pas vraiment, eh bien ne le lis pas. Rara devrait dire, c'est une mauvaise habitude que de donner à la tzedaka pour espérer quelque chose. Et puis c'est tout. Ah mais non, c'est vrai que si tu le fais, ça ne veut pas dire que tu n'aurais pas donné à la tzedaka, tu n'aurais pas fait cette mitzvah s'il n'y avait pas la condition. Donc si vraiment tu ne l'aurais pas fait, cesse ces habitudes-là. Essaye de t'habituer à ne pas le faire. C'est plus intelligent. Pourquoi est-ce qu'au contraire, les rachamim ont dit c'est bien de le faire. On va dire c'est pas bien. Vous comprenez? Parce qu'on vient, on explique, malgré ce qu'il a fait, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, alors c'est mieux sans le faire. Ok, on va s'arrêter. De Yaakov a vu, on apprend que c'est le contraire. C'est bien de faire comme ça. Ah, il faut s'entendre. La réponse, elle est écrite dans le Mirta Meliru. Il veut dire ceci. Le juif, lorsqu'il va faire une mitzvah, chaque fois qu'il a l'occasion de la faire, sous couvert de l'olishma, c'est-à-dire sous couvert d'un intérêt personnel, c'est bien qu'il le fasse sous le couvert de l'intérêt personnel. C'est bien. Pourquoi ? Parce que c'est jamais bon pour la santé de montrer qu'on est un tzaddik. Si on peut avoir l'air de quelqu'un qui n'en est pas, c'est meilleur pour tout le monde. Il ramène du Zohar que c'est une des raisons, ou en tout cas, on ne peut pas dire la raison, mais une des interprétations, une des façons de comprendre ce qu'on appelle le Seir Amishtaler. Qu'est-ce que c'est que le Seir Amishtaler? Vous savez qu'à Yom Kippour, on préparait deux sacrifices, deux boucs identiques. Un qui était amené au Beth Amidash en sacrifice, et un qu'on a envoyé dans le désert et que l'on lapidait. Ça s'appelle Seir, le Azazel. La traduction, on dit, on va aussi donner quelque chose au Satan. Qu'est-ce que c'est le Satan? C'est le Yetzirara. C'est ce qui, dans l'homme, essaye d'aller à l'encontre de la vie. On appelle ça le bouc émissaire. Ça Ça veut dire quoi? Ils font sacrifier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que le jour de Yom Kippour, on comprend que pour obtenir de faire une mitzvah, le Shem Shamaïm, pour qu'une mitzvah, on puisse la faire entièrement désintéressée, il faut être habitué à la faire en étant intéressé. Parce que celui qui attend de pouvoir la faire sans être intéressé, il attendra longtemps. Et c'est ce qui est écrit dans la Gemara, dans le traité de Psachim. Amar Rabbi Yehuda dit, le olam yasok adam ba Torah ube mitzot. Que toujours un homme s'occupe de la Torah et des mitzot, chez l'olishma, même si c'est chez l'olishma. Chez mitor, chez l'olishma, balishma. Au fur et à mesure, ça va devenir le Shem Shamaim. Ça veut dire que la façon qu'a l'homme de se développer, c'est pas de grimper tout de suite et d'arriver dans les hautes cimes, c'est de composer, c'est de comprendre qu'il existe un Yetzer Hara, il existe un penchant du mal, et qu'il faut savoir vivre avec lui. Lorsqu'on apprend à vivre avec lui, on apprend à s'en détacher. Lorsqu'on n'apprend pas à vivre avec lui, on n'apprendra jamais à s'en détacher. Celui qui veut renier, il a renié une partie de lui-même. On peut s'en détacher tout doucement à partir du moment où on sait vivre avec ça. Si on ne prend pas ça en compte, non. Ça, c'est une des raisons. On verra encore une autre à propos du verset suivant. Du Seir HaMishtaleach. C'est-à-dire qu'au moment de la Avoda de Yom Kippour, bien qu'on fasse tshuva, et bien qu'on se veut comme des malachim, ni on mange, ni on boit, et qu'on prie toute la journée, on sait qu'il y a une partie de nous qui n'est jamais entière. Et cette partie de nous qui n'est jamais entière, elle aussi, elle a besoin d'exister. Et c'est ça ce qu'on appelle ce Ir la Azazel, c'est-à-dire le bouc émissaire. Lorsqu'un juif veut faire une mitzvah, il doit le faire sous le couvert du lolishma. Vous voyez, même pire que ça, on l'a dit une fois. Même lorsque le bon Dieu veut faire des grandes choses, il le fait sous couvert de choses qui sont dégradantes ou dégradées, sous couvert de choses peu honorables. Non, on va dire. Où est-ce que nous on voit que Dieu fait de grandes choses? L'histoire, c'est l'homme qui l'écrit. Il y a une partie de l'histoire que Dieu écrit. D'où je sais qu'il y a une partie de l'histoire que Dieu écrit. Parce qu'il y a une promesse. Un jour, tout le monde reviendra. Ça, c'est une promesse. Pour y arriver, il faut qu'il y ait un fil conducteur à travers l'histoire. Ce fil conducteur, c'est le Mashiach. Le Mashiach, il vient des filles de Lot. C'est des choses qui ne sont pas très compréhensibles, puisqu'elles ont eu un enfant de leur père. Ensuite, ça passe par Yehuda et Tamar. Encore une affaire pas claire. Après, ça passe par Ruth à Moavia, avec Boaz, encore pas clair. Après, David et Bathsheba, encore moins clair. Chaque fois que on écrit quelque chose, on n'écrit pas au grand jour. Parce qu'il faut savoir vivre avec ce qui ne va pas pour pouvoir le combattre. Ce qui est marqué ici, Mibad le Tzamater, en dessous de ce qui recouvre, c'est vrai que ça doit être recouvert. Et c'est recouvert par quelque chose qui a l'air l'olishma, qui a l'air un petit peu dérisoire. Mais en dessous, il peut y avoir quelque chose de grand. On va essayer de comprendre un peu plus profondément. Vous savez que la différence entre la Chochma de la Torah, la sagesse de la Torah, et les autres sagesses, elle est dans le fait que la sagesse de la Torah demande des maasim, demande des actions. Parce qu'on est la veille du Shavuot, chacun peut le comprendre. C'est le sens de ce que les enfants d'Israël ont dit au mont Sinaï, Naase Venishma. Alors là, il y a une erreur qui est assez commune. Naase Venishma ne veut pas dire on fera d'abord et ensuite on comprendra. Parce que d'abord, c'est pas sûr que tu comprennes. Qui dit qu'on peut comprendre les mitzvot de la Torah? Et ensuite, le fait de faire n'est pas mis en concurrence avec le fait de comprendre. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a proposé la Torah, 613 mitzvot. Qu'est-ce que les autres ont dit? Les autres ont dit, qu'est-ce qui a marqué dedans? Ils n'ont pas dit, on veut comprendre. Ils ont dit, qu'est-ce qui a marqué? Alors Esav est venu, et on lui a dit, il a marqué qu'on n'a pas le droit de tuer. Il a dit, ça c'est pas pour moi. Al-Kharb Khatirye, on ne peut pas vivre sans guerre. On ne peut pas avoir un pouvoir sans transgresser ce commandement-là, donc je refuse la Torah. Est venu Ishmael, et qu'est-ce qu'il a marqué? On lui a dit, le Tignov, il ne faut pas voler. Il a dit, sans voler, ce qu'Ishmael est capable de faire. Il a refusé la Torah. Et chaque nation est venue. Le peuple juif a dit Naa c'est venu Ishmael. Donc on voit que ce n'est pas une question de compréhension. Ils ont dit, moi ça ne m'intéresse pas ce qui est marqué dans la Torah. Je prends. Donc Naa c'est venu dire, je m'engage, venu Ishmael, et je saurai à quoi je m'engage après. C'est pas je fais sans comprendre. Et après je comprendrai. C'est je fais sans savoir, et après je saurai. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je ferai sans savoir, et après je saurai. Il est écrit dans le Midrash, c'est un Midrash très connu. Beshash Israël Amru Naase Venishma. Au moment où Israël ont prononcé ces mots, Naase Venishma, nous prenons, et ensuite nous saurons ce qu'il y a dans le sac. Yatzta Batkol, une voix céleste s'est élevée, Vamra, Migila le Banaï Razze, qui a fait découvrir à mes enfants, Razze, ce secret, Shemishtam Shimbo, Malach et Acharet, dont se servent les anges du service. Verset, le roi David décrit les anges et il dit Ose de Varo, Lishmo Abekol de Varo. C'est les gens qui accomplissent la parole divine et après, en écoutant la parole divine. Non, c'est le contraire. D'abord, on écoute et après, tu fais. Non, eux d'abord, ils s'appellent des gens qui font et après, des gens qui écoutent. Alors, il faut essayer de comprendre ce midrash. D'abord, quel rapport avec les anges? On va d'abord dire ceci. Ce na se venishma, c'est-à-dire je m'engage, et après je saurai à quoi je m'engage. Quel rapport a-t-il avec l'ange? En quoi l'ange, c'est quelqu'un qui dit je m'engage, Et ensuite, je sais à quoi je m'engage. Alors, je dis une notion très simple. C'est que l'ange, c'est une créature qui est envoyée par Dieu pour faire un lien entre lui et l'homme, ou lui et le monde. Et n'importe quel lien entre Dieu et le monde s'appelle un ange. Ça veut dire qu'il est d'abord au service, et il a été créé pour être au service, et après on va lui dire quoi faire. Donc attention. Chez lui, connaître sa mission, ça n'est pas ça qui conditionne le fait de la faire, puisqu'il a été créé pour qu'on lui donne des missions. Donc il est naturel chez lui qu'on dit « Ose de Varo », tu sais ce que c'est qu'un ange. Un ange, c'est tout ce qui permet à la parole divine de se réaliser dans le monde. « Lishmoa kol de Varo » selon le message que Dieu veut faire passer. Donc il est tout à fait naturel que chez l'ange, notre compréhension de ce que c'est le malach, c'est exactement ça. Il y a des choses dans la nature qui font passer des messages. Ils ont été créés pour faire passer des messages. Donc c'est normal que le message passe à travers eux, puisque ça a été créé pour ça. Lorsqu'on dit « qui a dévoilé », ça veut dire, c'est quelque chose d'extraordinaire, que le peuple juif ait eu cette attitude-là. Comment est-ce qu'ils ont découvert cette attitude-là? Là, on a besoin d'une explication. Il est écrit dans le Sefer Shaare Tshuva de Rabbeinu Yonah. Lui, il dit ceci. Dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, il a écrit une maxime, une phrase qui est bizarre. Kol shema asav merubim mechokhmato, chokhmato mitkayemet. Vechol shechokhmato merubim ma'asav, en chokhmato mitkayemet. Alors attention. Kol shema asav merubim mechokhmato. Tout celui dans les actions. Merubim sont plus grandes, mais chokhmato que sa sagesse. Chokhmato mitkayemet, sa sagesse. Mitkayemet, ça veut dire elle se réalise. Elle existe. Et tout celui dont la sagesse est plus grande que les actions, la sagesse ne se réalise pas, elle n'existe pas. La question que tout le monde a, si quelqu'un en fait plus que ce qu'il sait, parce qu'il fait des bêtises, tu en fais plus que ta sagesse. Donc c'est pas sage ce que tu as fait. C'est bête. Comment est-ce qu'on peut arriver à en faire plus que ce qu'on connaît? Viens à Benoît et dit ceci. Faire, ça ne veut pas dire faire dans le maasé, dans l'action. Prendre sur soi de faire, ça s'appelle faire aussi. Comment est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui en fait plus que ce qu'il sait, sans être un bête? C'est pas quelqu'un qui en fait plus. C'est quelqu'un qui a accepté de faire. Et puisqu'il a accepté de faire, c'est comme s'il avait fait. D'où est-ce que je le sais? Parce qu'il y a marqué à propos du sacrifice de Pessah. Vayelchu vayasu et à Pessah. Lorsque les enfants d'Israël ont eu l'ordre de sacrifier le sacrifice de Pessah, et marqué, ils sont partis, ils l'ont fait. Et pourtant, c'était le 10 Sivan, et ils ne l'ont fait que jusqu'au 14. Et Rabbi Nuna de l'envoie, que celui qui a pris sur lui de faire, c'est comme s'il avait fait. Vayel Chouvayazo. Donc lui introduit une nouvelle notion. Celui qui prend sur lui de faire, c'est comme s'il avait fait. Donc attention, maintenant, dans cela, c'est une Ishmaïendou et dimanche. C'est que les Bnei Israël ont compris que recevoir la Torah sans action, ça ne veut rien dire. Comment est-ce qu'on va recevoir la Torah et en faire plus que ce qu'on va apprendre? On va prendre sur soi de fer. Et celui qui prend sur lui de fer, il en fait plus. Alors là, essayez d'expliquer. Pourquoi est-ce que la Chokhmat HaTorah, elle ne peut pas exister sans action? La différence entre une science que l'on découvre, que l'on apprend, et la Torah, c'est que dans une science, j'accède à un savoir. J'accède à un savoir. La Torah n'est pas là pour accéder à un savoir. La Torah, elle est pour me montrer comment je dois être. C'est pas un savoir qui est extérieur à moi. Voilà, il y a une science que tu dois connaître. On va donner la preuve. C'est que celui qui apprend les mathématiques, on ne lui dira pas, si tu ne les fais pas, eh bien la science n'existe pas. Parce que la science, elle existe en tant qu'elle-même. C'est un raisonnement, c'est une compréhension, c'est un savoir, c'est un accès à quelque chose. Ça existe en tant que soi, ou tu accèdes ou tu n'accèdes pas. Mais le fait d'accéder ne lui donne pas une existence. La Torah, ce n'est pas un savoir. Évidemment, il y a un savoir dedans. Mais elle s'appelle Chochma parce qu'elle contient un savoir que chaque homo sapiens doit connaître. C'est que la Torah va me permettre de savoir pourquoi j'ai été créé, qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me situer. Alors, c'est vrai qu'on a besoin d'un savoir. Mais le but, ce n'est pas que tu aies une connaissance des choses. Mais le but, c'est que tu aies une découverte de ce que toi, tu peux devenir. À partir de ce moment-là, le fait d'accéder à une théorie ou d'accéder à un raisonnement ou à une connaissance, si je n'ai pas une action qui me permette de voir que cette connaissance a un rapport avec moi, elle est superflue. On va dire pire encore. Tout le monde sait, et tout le monde se pose toujours le même problème, pourquoi Dieu a créé l'homme? La seule réponse qu'on n'ait jamais trouvée, c'est pour que l'homme connaisse Dieu. Mais, est-ce que c'est pour une connaissance, aussi grande, magnifique qu'elle soit, ou c'est pour une vie? Je dois pouvoir vivre de cette connaissance. Je dois pouvoir avoir un rapport avec un Kadosh Baruch Hu qui s'appelle la vie. Si je ne l'ai pas, cette connaissance est futile. Elle ne sert à quoi? Elle ne sert à rien du tout. Parce que ça va rester quelque chose qui est en dehors de moi. Si ça me permet, moi, de vivre, alors ça vaut la peine. Mais si ça ne me permet pas, souvent les gens ils demandent, bon, on parle du Olam Haba, le monde futur, qu'est-ce qu'on va y faire? Tu vas accéder à une connaissance, voilà ce qu'on s'imagine. Mais l'ordre qu'on va vivre. Il n'y a pas la vie et cette connaissance. C'est cette connaissance qui est la vie. Ça veut dire que cette connaissance, ce n'est pas quelque chose auquel j'accède à un nouveau savoir. c'est que ça a un rapport avec Akadosh Baruch Hu qui me fait vivre. Et plus je découvrirai, et plus je verrai le rapport que j'ai avec ça. Et c'est ça qui me fait vivre. C'est comme une nourriture. La nourriture me fait vivre. Cette nourriture aussi, elle va pouvoir faire vivre. Un accès à un savoir, ça ne peut pas faire vivre, parce que ça n'a pas de rapport avec moi. C'est la raison pour laquelle la Torah sans Maasim, elle ne peut pas exister pour la personne. Elle peut exister pour le livre, elle peut rester en tant que théorie, elle peut rester en tant que mitzvah, comme chez le non-juif, il attend les temps de mitzvot, mais ce n'est pas la Torah. À partir du moment où le juif veut accéder à ça, il doit avoir un maasé. Et ce maasé doit dépasser largement le cadre de la chorma, puisque la chorma est là pour lui servir de possibilité de vie, le maasé. Si c'est comme ça, alors obligé d'arriver à un grand chidouche. Dis-moi comment les bnei Israël ont pu accéder à la première mitzvah, puisque avant de la faire, il fallait bien que je la connaisse. Et ça ne s'adresse qu'aux gens qui font. Alors je dis, lorsque quelqu'un y prend sur lui de faire, c'est comme s'il avait fait. C'est ce que les chachamim m'appellent, comme ça est marqué dans les sfarim, oraita. Ou plutôt ça commence par le contraire. Kutcha Barichu, Dieu. Oraita la Torah, v'Israël, chad ou. Chadou, ça veut dire c'est unique. Ce n'est pas trois choses différentes. Il y a quelque chose où, ici, ça s'appelle Chad, Echad. Comment on comprend que ça s'appelle Echad? C'est que le lien avec Dieu, qui passe par la Torah, il est adapté au peuple juif, parce que justement, le peuple juif a cette capacité de faire, donc d'accepter avant, parce que j'ai pas fait, mais le fait d'avoir accepté, c'est toujours pas de faire. Chez les juifs, oui, parce que c'est la même chose. Que tu fasses ou que tu fasses pas, puisque tu t'es engagé, c'est la même chose. Après, ça n'est que le déroulement de l'engagement. Si c'est comme ça, on peut comprendre un midrash qui est très difficile à comprendre. Il est marqué un verset dans la paracha de Kitavo. Là-bas est marqué. Et il est livré à Brit. Voici les paroles de Brit de l'Alliance. Ushmartem vasitem otam. Vous les garderez. Ishmor se mitzvat. Lotase, négatif. Vasitem, et vous ferez Otam, elle. Le village, il y a marqué Otam sans Vav. Otam, normalement, il y a un Vav. Alors il faut lire Atem. Vous, dit le Midrash, celui qui respecte Mitzvot Asé, Mitzvot Lot Asé, Malé à la Vakatouv, le verset le considère comme si c'était créé lui-même. Que ilo asitem et atzmechem. Première question, c'est que il est marqué plusieurs fois le mot atem dans la Torah, sans vav. Et c'est le seul endroit où les chachamim expliquent ça. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'es fait toi-même, tu t'es pas fait toi-même. Se faire soi-même. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours affaire avec quelque chose qui est extérieur à vous. C'est que ce qu'on assimile, c'est soi-même. La chokhma de la Torah, du fait qu'elle passe par le maasé, qu'elle passe par l'acte, ce que je découvre, c'est moi qui le fais, c'est moi qui construis. C'est pas quelque chose qui est extérieur, que j'ai moi, avec ma vie de tous les jours, et maintenant j'ai quelque chose d'extérieur qui va venir, et qui va me diriger même, ou qui va m'éblouir, ou qui va m'élever. Non. C'est comme ça que je me construis. Je n'existe pas en tant que juif autrement. Ah, pourquoi c'est marqué ici? Parce que c'est la seule fois où il y a marqué Atem avec le mot Brit. Brit veut dire quoi? Engagement. C'est l'engagement, c'est pas le fait de faire. Le fait de faire, ça n'est que le corollaire de l'engagement. Maintenant, vous allez comprendre qu'il y a marqué dans la Gemara, dans le traité de Kiddushin, quelle est la différence entre un juif et un non-juif. Un juif qui a voulu faire une mitzvah, il n'a pas réussi à la faire, c'est comme s'il l'avait faite. Un non-juif qui a voulu faire une mitzvah, il n'a pas réussi à la faire, il l'a pas faite. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas l'engagement, lorsque tu ne fais pas, ben t'as rien. Alors que le juif, puisqu'il y avait déjà l'engagement, qu'il fasse ou qu'il fasse pas, c'est pas très important finalement. Puisque le problème, c'est l'engagement. À partir du moment où je me suis engagé, c'est pas grave que je fasse ou non. Donc maintenant, on va arriver et on va comprendre exactement pourquoi la Torah a besoin du Maasé. Parce que sans Maasé qui la soutient, elle s'adresse à personne. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec les Malachim. C'est quoi le Malach, l'ange? C'est quelqu'un qui est engagé pour ça. Alors maintenant, son engagement prend une valeur. La Torah, c'est la valeur que prend mon engagement de la faire. C'est en ça qu'elle construit la personne. C'est en ça qu'on a besoin du Maasé. Pourquoi? Parce qu'on a dit, la Torah, elle doit me révéler ce pourquoi je suis là. Elle doit me permettre de savoir qui je suis. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être un très grand chacham pour savoir exactement qui on est dans la Torah. Parce que vous savez que chaque paracha de la Torah, du Sefer Devarim, fait référence à un centenaire de l'histoire du peuple juif. Et comme on n'est pas loin de la fin de l'histoire, notre ère se passe vers la parachate Azinu. C'est pas évident de savoir qui on est, comment on est. Mais je vais vous raconter ça, vous allez comprendre. Le Ramban Nachmanide. Vous avez entendu parler? Il a vécu il y a 800 ans. Alors c'est Nachmanide. Avait un élève qui s'appelait Avner. Avner, c'est un nom commun. C'était le général d'armée du roi David. Et ce Avner, qui avait beaucoup étudié chez lui, est venu un jour, le jour de Yom Kippour, chez le Ramban, avec de la nourriture interdite. Il a commencé à manger sa nourriture et de la faire cuire en même temps. Il a commencé à discuter avec le Ramban combien d'avérot il faisait en même temps. Le Ramban lui a demandé, pourquoi tu es devenu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, voilà, je vais dire au Rav, j'ai entendu une dracha, paracha ta'azinu, ou avant c'était avant, je ne sais pas quel paracha, où il a marqué que ce qui arrive à chacun et toute la vie d'un homme, elle est marquée dans les versets de la Torah. Alors, les centaines de millions de juifs qui sont marqués tous dans la Torah et qu'on puisse savoir la vie de chacun et le shoresh de la neshama, c'est-à-dire de quoi est fait la neshama de chacun et quelle est son histoire, j'y crois pas. Là, vous avez abusé. Ce jour-là, je me suis dit, c'est bidon, terminé. Il a dit le Ramban, mais c'est marrant, tu aurais dû me poser une autre question. Tu aurais demandé, où est-ce que ton nom est marqué? Je te l'aurais dit. Alors il a demandé où est-ce que c'était son nom. Il a dit, le ramène est marqué. Amarti afem ashbita me enosh zichram. Regardez toutes les deux lettres. Avner. Il a eu un tel choc. Qu'il a dit, je veux faire tu vois. Alors, le Ramban lui a dit, essaye. Comme il voyait que dans le contexte où il était, ça lui était difficile de faire tchouva, il a pris un bateau tout seul, il est parti sur la mer, et personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Et là, si vous regardez vraiment le verset, Amarti afem ashbita me enosh zichram, ashbita me enosh zichram, ça veut dire ashbit, le ashbit, j'enlèverai, me enosh, du monde de la connaissance, zichram, leur souvenir. Donc on a demandé au Rambam, comment as-tu pu dire que c'était le verset, puisque tu ne savais pas encore ce qui allait se passer? Il a dit non. Du verset, je savais que sa seule joie possible, c'est qu'on n'entend plus parler de lui. Ce qui a marqué Amar Tiafem, Ashbita Menozir. Une fois quelqu'un est allé chez le Gaon de Vilna, il lui a demandé où est-ce que mon nom est marqué dans la Torah. Il a dit non, je ne sais pas. Alors il était vexé l'autre, ça veut dire. Peut-être je ne fais pas partie. Puis il y en a peut-être qui sont marqués dans les virgules. Il ne faut pas être présomptueux non plus. Alors il a dit, et votre nom au Gaon de Vilna. Il a dit, il y a marqué Even Shlema. Eliaou ben Shlomo Zaman. Eliaou ben Shlomo. Even Eliaou ben Shlomo. Allez, en même temps, il y a des maasim, il y a des choses à comprendre. Mais ça, c'est la vie du peuple juif. Chacun ne peut pas trouver exactement. Mais attention. Dit le Mirtam Eliaou, il faut faire bien attention. Chacun ne peut pas retrouver peut-être son nom exactement, puis ça dépend de combien on cherche. C'était pas tellement intéressant non plus de chercher. Mais il y a quelque chose que chacun peut retrouver. Que le monde intérieur de chacun, avec ses problèmes, avec ses défauts, avec ses réussites, avec ses qualités, il le trouve décrit exactement dans la Torah et comment est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à tout le monde. Il est impossible que lorsque l'on ne parle pas de quelque chose de Emet, chacun ne croit pas qu'on parle exactement et seulement de lui. Et ça, tu peux quand même le voir. Ça veut dire, ton nom en privé, tu ne peux peut-être pas le voir. Mais ça, tu peux le remarquer. C'est en cela que la Torah a besoin de masser. Mais on a dit, c'est impossible qu'elle ait assez. Elle a besoin d'engagement. Pourquoi elle a besoin d'engagement? Parce que c'est la découverte de comment je dois être. Si moi, j'ai pas compris que d'abord je dois être, c'est pas la peine de découvrir quoi que ce soit. C'est la différence entre une autre Chokhma et la Chokhma de Torah. Si tu veux découvrir quelque chose d'extérieur, ah, t'as pas besoin d'engagement. Si tu veux découvrir ce que tu es, comment tu dois faire toi, alors tu es obligé d'abord de t'engager dedans. Parce que si tu ne penses pas que c'est pour toi, c'est pas la peine. Donc ça veut dire que la Torah me donne la solution de mon problème qui est quoi? Je me sens engagé dans quelque chose, mais je ne sais pas dans quoi. Et si maintenant vous retrouvez à travers ce qu'il y a dit Mirtam Eliaou, c'est le problème de chacun. Parce que chaque ma'amine, d'où lui vient sa émouna? C'est qu'il y a un moment où un homme se sent engagé dans une chose qui le dépasse, mais il ne sait pas dans quoi. Il a envie de trouver dans quoi. Mais s'il ne se sent pas engagé, c'est-à-dire qu'il n'a déjà pas fait le compte que le monde a été créé, il a été créé pour une raison, et moi je fais partie, donc il y a une raison, donc je suis engagé. Alors la Torah n'intéresse pas. faut d'abord en être là. Celui qui n'est pas arrivé à ce problème-là de dire pourquoi le monde a tout créé et pourquoi je suis créé avec et pourquoi et qu'est-ce que je dois faire et comment j'en suis une partie et quelle en est ma responsabilité, quels sont mes devoirs, quels sont mes droits, il n'a pas de problème de voilà celui-là. Le problème d'Emouna, il commence là. Mais il est obligé d'avoir une solution. Ça veut dire, ce serait la plus grande cruauté qu'un homme un jour se rende compte que le monde n'a pas été créé par hasard, qu'il y avait un but. Ce but est évident que c'est l'homme, donc le but est évident c'est moi, et qu'est-ce qu'on me veut? Si on n'arrive pas à répondre à cette question, alors on ne doit pas faire tout ce montage-là. C'est ça ce qu'on appelle l'engagement. Naasé, c'est pas plus que ça. De même que le malach, il se sent pris dans un projet et il n'a plus qu'à attendre ce qu'il doit faire, un homme doit à un moment de sa vie réaliser qu'il fait partie d'un projet et il est très embêté et ça lui est insupportable de ne pas savoir en quoi il a une relation avec ce projet, donc avec le bon Dieu. Et c'est là que commence la question et c'est là que pose la Torah. Là, la Torah se pose en solution. Alors que les autres rochmot, non. C'est ça que tu as besoin d'engagement. Et l'engagement, c'est l'engagement de faire, ça veut dire du devenir. Donc pour ça, on a besoin de deux conditions. D'abord de dire que celui qui veut, cet engagement, ça a une valeur de fait. Parce que cette rochma a besoin d'une traduction dans la réalité. Parce que sinon, tu n'as rien à voir avec ça. Donc tu es obligé de dire que, puisque tu t'es engagé, c'est comme si tu as étouffé. Si quelqu'un me demande c'est quoi Naaseh V'Nishma, Naaseh V'Nishma ça veut dire qu'on ne doit pas avoir peur du bon Dieu. Et c'est seulement le jour où on n'a pas peur qu'on commence à se poser la question, bon alors qu'est-ce que je fais là-dedans? Parce que la seule raison pour laquelle on n'ose pas se poser la question, c'est parce qu'on a peur de la réponse. Mais en vérité, tout le monde a la question. Il y a celui qui fait apparaître la question. Donc c'est automatiquement un engagement, puisqu'il n'a plus peur de la réponse. Ne pas avoir peur de la réponse, c'est ça, Naaseh V'Nishma. Esav, il a eu peur de la réponse. On dit, tu sais, l'eau tire de ça, l'eau machin. Je ne peux pas assumer. Mais si quelqu'un comprend qu'on ne va pas lui demander quelque chose qu'il ne peut pas, parce que ça ne fait pas partie du possible, il n'a pas peur de s'engager. Donc j'ai besoin d'un engagement pour que ça réponde à ma question. Et ma question, c'est que faire? Donc j'ai besoin du Maaseh pour que la Torah existe, puisqu'elle répond à la question qui être et que faire. Et ça, ça passe par le Maaseh. Parce que nous n'avons pas d'autre possibilité, nous, de faire et de réaliser que notre monde, qui est le monde du Maaseh, même une réflexion, ou même une pensée, ou même une émotion, ou même une intention, c'est du Maaseh. Et non, c'est pas fonctionné autrement. Donc pour que cette rochma existe, on en a besoin. Alors que les mathématiques, ça peut être de la logique. La physique, ça peut être de la logique. La médecine, ça peut être logique. À partir du moment où j'ai compris le système, je peux l'appliquer. Mais le système en lui-même n'a pas besoin du Maaseh du tout. Ça, c'est le sens de ce qu'on appelle Naaseh V'Nishma. Maintenant, il est évident que chacun a les meilleures intentions du monde et il est prêt à Naaseh. Mais au fond, il n'est pas prêt. Pourquoi? Parce que cette question qui est primordiale pour lui, il a une réponse. Et elle est évidente. Laisse tomber. De moufler mimcha altidroche. Les choses qui sont plus hautes que toi, qu'est-ce que tu as besoin de rentrer là-dedans? C'est ça ce qu'on appelle l'aura. L'aura, ça veut dire que la question est là, mais elle n'a pas de solution. Elle n'a pas de solution. Moi, je suis obligé de poser qu'elle a une solution. Et la seule raison pour laquelle je me fais dire et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de solution, c'est parce que j'ai peur de la solution. Nas et Venishma, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Celui qui a peur, il ne peut pas. Pire que ça. Si on réfléchit, cette question d'Emouna, elle est la plus simple du monde. Même les enfants la posent. Un enfant à partir de l'âge de 6-7 ans, même quelquefois avant, il vous dit, pourquoi je suis là? Pourquoi le monde est ma pierre? Qu'est-ce que je fais ceci? Qu'est-ce que je fais cela? Comment est-ce qu'on fait pour étouffer cette question? Comment est-ce qu'on fait pour étouffer? Parce que cette question, on la voit là, après, ça reparaît. 14-15 ans, on recommence. Après, ça disparaît. Comment on fait pour étouffer cette question? Toute la société est là pour faire étouffer cette question. La réponse la plus simple, c'est qu'en fin de compte, on dit à l'enfant, tu arrives aussi bien à vivre si tu n'as pas la réponse à ces questions. En quoi ça t'empêche de vivre? C'est-à-dire qu'on va lui donner un ersatz, qui est, il y en a qui appellent ça le bonheur, il y en a qui appellent ça la jouissance, il y en a qui appellent ça le devoir. Il y a plein de ersatz qui font qu'on ne se pose plus la question. Mais elle revient de temps en temps. Elle revient de temps en temps. Par exemple, quelqu'un qui se marie, il veut fonder un foyer, il a rarement des questions existentielles. Mais il suffit que ses enfants grandissent, ils commencent à en avoir de nouveau. Je me lance dans une entreprise. Vadaï, comment on fait faillite, les questions commencent. Mais même qu'on n'a pas fait faillite et que tout va bien, on ne se lance plus dans rien, on recommence à poser des questions. Chaque fois que on n'est pas en état où on est en effervescence par le fait de « à quoi ça va poser la question ?» De toute façon, tu dois faire ça, ça et ça, ça ne change rien. La question revient. Le Mahamin, c'est celui qui n'a pas peur de donner la réponse. C'est que si le monde écrit tout ça, c'est que ça a un sens. Tu fais partie, tu dois savoir en quoi tu fais partie de ces choses-là. C'est la raison pour laquelle un enseignement qui parle de choses privées et qui s'adresse normalement à des choses qui se passent à l'intérieur de la tête des gens, il peut quand même être universel. Il est à ce point-là que tu peux même trouver exactement ta place. Bon, ça c'est plus dur. Le maître de ville l'a déjà dit, il donne un exemple. Si quelqu'un veut savoir exactement quelle est sa place, il doit regarder quels sont les mitzvot les plus faciles. Ça c'est les ustensiles. C'est avec ça que je vais pouvoir avancer. Et quelles sont les plus difficiles? C'est ça, celle à laquelle je dois m'atteler. C'est pour ça qu'on met les tignes sur la main gauche et pas sur la main droite. Parce qu'on doit arranger ce qui ne va pas. On ne doit pas seulement se servir de ce qui va. Alors tu vas te servir de ta main droite pour mettre les tignes sur ta main gauche. C'est comme ça qu'on peut arriver à raisonner. Mais ça, c'est la seule condition qu'on arrive à se poser la question. À cette question, la seule réponse possible, c'est ce qu'ont fait les Bnei Israël. Nas et Venishma, sinon c'est un refus. Maintenant, ça a l'air bizarre de dire à quelqu'un qui n'a aucune question métaphysique et qui profite de la vie à plein, de lui dire qu'il refuse la vie. Mais c'est quand même comme ça. Parce que si tu vas lui dire, maintenant, toi, marqué le tir de ça, il va dire, non, je peux pas. Donc tu refuses la vie. S'il y a marqué le Tixol, tu refuses la vie. S'il y a marqué ça, tu refuses la vie. Ça a l'air fou. C'est là où intervient le Lolishma. Parce que nous, on pense que c'est le contraire. Autant qu'on sait, d'après notre Sechel et d'après notre compréhension, que celui qui s'attelle au mitzvot de la vie, de la Torah, il s'attelle à sa vie, autant il a l'impression de se fermer les portes. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé une question. Il dit, voilà. Les juifs s'enferment toujours dans des ghettos. Ils veulent avoir des juifs. Et lorsqu'on sort du ghetto, c'est pour des raisons pratiques. T'as besoin de parler à ça, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. Mais au fond, ils sont à l'aise dans le ghetto. Ça veut dire qu'il se prive de liberté. Il se restreint pour pouvoir être juif. Quelle est la réponse? Tu dis, bon, c'est vrai, mais c'est pas bien. Aujourd'hui, on vous dit, il faut être dans la cité. Même les rabbins doivent être dans la cité. Tout le monde doit être dans la cité. Où est le piège, là? Il y a un piège. Parce qu'on sait que c'est pas vrai. Le peuple juif n'a jamais réussi à vivre comme ça. Chaque fois qu'il s'est mis dans la cité, hein, il y avait la cité, mais il n'y avait plus de juifs. Pourquoi ça marche comme ça? À Botaï, c'est parce qu'on a oublié quelque chose. Il y a marqué dans le Rambam, Ilchot Deot. Le Rambam, il dit ceci. Derech Briato Shel Adam Liot Nimshach Achis Yotav Noeg Ke Anshe Medinato. On ne peut pas avoir une relation, quelle qu'elle soit, avec quelqu'un, si on n'adopte pas ses idées. C'est impossible. Je ne peux pas faire du chemin avec quelqu'un si je vais à l'inverse. Chaque fois qu'on est mis de travers, chaque fois qu'on a un ribot, qu'on a une relation, on est obligé de faire comme l'autre. Vous allez me dire, l'autre aussi est obligé de faire comme vous. C'est vrai, mais ça ne console pas. D'abord l'autre, il mettra rarement les tefilim. Et même si on lui donne quelques petites bonnes midotes, et on lui donne, ça ne console pas hein, que l'on va perdre des plumes. C'est pour ça que la Gemara a dit dans le traité de Sota au début, pourquoi est-ce que la Torah a mis la paracha de Nazir avec la paracha de la Sota? Shekol Aroé Sota avec une kula Yazir Atsno Minayen. Tout celui qui voit quelqu'un qui faute, il doit se retirer un petit peu. Tu dis, mais quel rapport avec moi? T'as vu? Ça fait partie de ton monde. Le maasé, l'acte, influence la machashava, la pensée, autant que la pensée influence sur l'acte. Celui qui ne croit pas à ça, est-ce qu'il a rien compris du monde? Il est au point que si les gens sont raïm, ça veut dire qu'ils ont des mœurs ou ils ont des coutumes qui ne te conviennent pas sur la Torah, tu dois te retirer. Au point que le Rambam dit, et si tout le monde entier est comme ça, tu es obligé d'aller dans le désert, comme a dit le prophète Jérémie, Mitneni ba midbar melon orchim. Si jamais je pouvais avoir un abri dans le désert. Comme ça dit le Rambam. Celui qui n'a pas compris ça, c'est qu'il n'est pas Oved, il n'est pas en train de travailler. Parce que celui qui travaille sait que lorsqu'il côtoie et il est obligé de faire comme si son travail n'existait pas, il est en train de perdre. C'est comme un muscle. On est obligé de le laisser au repos. Après, il travaille vraiment bien. Chaque ribot. Donc attention maintenant. Ça veut donc dire que lorsque je fréquente l'autre, je perds ma liberté. Pour la garder, je suis obligé de me retrouver moi-même. Donc non, c'est le contraire. Si je vais dans la rue et que la seule chose que je vois, c'est Sota Bekilkula, alors je perds ma liberté d'action. Je ne la gagne pas. Mais lorsque je suis à l'intérieur, là, je suis vraiment libre, parce que si je fais une bêtise, c'est moi qui l'ai décidé. C'est pas parce que je fréquente l'autre. Donc la vraie liberté, c'est le contraire. Le juif recherche le ghetto, parce que ça n'est que dans le ghetto qu'il est libre. Lorsqu'il est à l'extérieur, il n'est pas libre. Il est automatiquement obligé de se conduire comme l'autre. Donc il a perdu sa liberté. Il en est la même chose de la Torah. Qu'est-ce que tu as besoin de prendre tout ça sur toi? Reste libre. Si je n'ai pas ça sur moi, je ne vis pas, je n'ai pas de liberté. Mais il faut me donner tout ça, plus j'aurai de choix et plus je serai libre. Pour avoir le choix, il faut être indépendant. J'ai rien plus, il faut être seul. On ne peut pas toujours traîner les autres avec soi. Alors il y a les mitzvot qui font qu'on doit traîner les autres aussi. Ça fait partie de la mitzvah. Mais si on ne sait pas être seul, on ne sait pas s'en sortir non plus. Seul, c'est la liberté. Parce que si je veux faire des choses qui sont le contraire de ce que je pense qu'il doit être fait, je suis tout à fait libre. Et c'est de moi que ça vient. Ça ne vient pas de l'autre. C'est avec l'autre que je ne suis pas libre. Ça a l'air absolument rétrograde. Et on vous dira, mais alors, c'est le contraire du juif dans la cité. Ah, il faut savoir une chose. C'est qu'on doit pouvoir vivre avec les autres, mais sans être mis travers. Sans être mis travers, c'est-à-dire sans avoir quelque chose de commun. Quelle est la seule façon? Quelle est la seule façon? C'est de s'affirmer absolument et définitivement comme différent. À partir du moment où je m'affirme comme différent, je ne suis pas obligé d'avoir ce qu'on appelle un ribou. Là, je suis libre de dire mes idées, de refuser les idées des autres. Pourquoi? Parce que je me pose comme différent. Donc je me pose comme libre. Ça, c'est une chose qui est très, très, très difficile. Pourquoi? Parce que l'autre le refuse. Évidemment. On ne voit pas, même aux États-Unis, où est président de la République juif avec une kippa. C'est pas possible. Il y a des limites. Alors, ces limites, il faut les accepter. Mais ces limites, de toute façon, c'est les autres qui le fixent. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur. C'est là où intervient le Shelo Lishma. Parce que à cette question existentielle qui est pourquoi je suis là et qu'est-ce que je dois faire, j'ai toujours une petite voix qui dit calme-toi, fais comme tout le monde, calme-toi, qu'est-ce que tu as besoin de savoir la réponse. Le Lolishma, de faire quelque chose intéressé, ça me permet de le faire et de commencer. Si j'attends d'être le pur esprit qui arrive à tout faire, je ne serai jamais le Shem Shamayim, c'est impossible. Il y aura toujours mélangé cette petite question. C'est la raison pour laquelle quelqu'un un jour est venu chez moi le Shabbat, il me dit pourquoi vous mettez du sucre dans les chalotes. Alors je lui ai répondu, qu'est-ce que vous voulez? Que comme les chalotes c'est une mitzvah, il faut juste qu'elle soit pas bonne. Même des tefillin, un jour quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit j'ai acheté des tefillin. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles? Qu'est-ce que tu as besoin que les tefillines soient belles? Je vais acheter des belles tefillines. C'est ça le lolishma. C'est plus facile de faire le bonheur de quelqu'un envers lequel on a de la sympathie. Alors pourquoi est-ce que je vais essayer justement de faire le bonheur de quelqu'un que j'ai en antipathie? Ça s'appelle le lolishma. C'est-à-dire qu'on est obligé de composer avec ça. Le peuple juif s'est jamais pris pour des grands tzadikim parce que la Torah c'est l'avoda. C'est quelque chose qui va lentement. C'est une échelle qu'on doit monter. Si on ne sait pas tenir compte du lolishma, c'est impossible. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte d'une partie de notre personnalité qui nous dit refuse la question, ça changerait. Alors, les raisons pour lesquelles on refuse la question, la meilleure c'est toujours de toute façon, on ne sera jamais sûr de tout. Même Rabbi Eliezer, avant de mourir, il a dit, je ne sais pas si j'ai bien fait. Bah, tu n'as pas commencé un truc pareil. Quand quelqu'un m'a dit, que des vieux rabbinim, ils fassent Yom Kippour, ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir. Vous comprenez? On est fichu. Des jeunes, et pas des rabbinim, on comprend. Des jeunes et des rabbinim, on comprend. Et des vieux et des rabbinim. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire, ces malheureux? Il a respiré dans la vie. Ça veut dire qu'on a toujours perdu. On peut voir les choses comme ça. On peut les voir autrement. Puis tu vois, même vieux et même rabbinim, ils peuvent comment progresser encore? Ça, c'est Cholo Lichma. Celui qui aborde le Lichma, il est fichu. La seule façon d'arriver à composer avec le rat qui est en soi, qui veut donc faire toujours le contraire, c'est de composer avec le Lichma, c'est ce qu'on appelle le Satan. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi dans Iov, dans le traité de Job, il est marqué que le Satan est venu chez Akadosh Baruch Hu, il a dit, tiens, on va voir ce grand tzadik, ce grand... Pourquoi ? Dans le Midrash, il est marqué, Ov lo chata bisfatav. Il n'a pas péché, il ne s'est pas rebellé. Rashi bisfatav lo chata val belibo chata. De l'extérieur, il n'a pas fait d'avera, mais l'intérieur, oui. Et le Midrash explique, il dit, qu'est-ce qu'il faisait Iov ? Iov, il amenait tout le temps des sacrifices, alors qu'il n'était pas obligé. Mais ses enfants, ils faisaient des grandes soudottes. L'intérieur, c'est pour soi. L'extérieur, c'est pour le bon Dieu. Le juif, il fait le contraire. L'intérieur, c'est pour le bon Dieu, et l'extérieur, c'est pour toi. On a besoin des deux, on ne peut pas s'en sortir. Mais il faut que ça reste extérieur, c'est chez l'Olishma. C'est pour ça que, dit le Rambam, quelqu'un, s'il n'a pas un minimum de confort physique, sa neshama ne peut pas le diriger. Si, mais on n'est pas les purés. Non, on n'est pas. Parce qu'on est obligé de composer avec ce monde, c'est ça ce qu'on appelle composer avec le Satan. C'est ça le sens du Sira Mishtaler. Et c'est ça ce qui est marqué ici. Mibad le tzamater saarer que eder aizim shegal shum e'argilat. Quelque chose, ça peut être beau, mais ça doit être recouvert. Ça veut dire que le juif, les belles maasim, les bonnes actions, elles doivent être recouvertes un petit peu de l'olishma aussi. C'est ça le sens, mitorché l'olishma, balishma. Celui qui se découvre, il a toujours perdu. Parce que c'est impossible. On ne peut pas ne pas tenir compte de cette partie de soi-même qui me dit, ne t'engage pas. Ça va quoi ? Ou tu perdras, ou c'est pas sûr, ou ceci, ou cela. Et personne ne peut être sûr de combien il est sûr. Ça, il faut le savoir. Même quelqu'un qui sacrifierait sa vie pour une mitzvah, je peux encore dire qu'il n'est pas sûr. Parce que le pari de Pascal, c'est ça. Tu penses ne pas trop y perdre, lance-toi. Donc même celui-là ne peut pas dire qu'il est sûr. Qui dit que je dois être sûr pour m'engager ? Je ne suis pas obligé non plus. Donc il y a toujours du lolishma. Il y a toujours quelque chose à côté qui n'est pas entièrement. C'est pour ça que lorsque Kadosh Baruch Hu, il veut décrire le cas d'Israël, il dit Saarer que les raizim, ce qui est éblouissant, mibad de sa matière. C'est vu, mais c'est recouvert par un voile. Le voile, il est l'olishma. C'est pour ça que la Gemara vient et dit, tu vas donner la tzedaka. Almenat shechiyeh beni. Je fais à condition que. Il dit Rashi, mais la condition n'est pas respectée. Tu donnes quand même la tzedaka. Donc tu as le droit de le faire. Non, on a demandé, tu as le droit de le faire, mais ne le fais pas. C'est pas beau. Fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, si tu attends de donner la tzedaka uniquement lorsque tu n'auras rien demandé au bon Dieu, c'est pas sûr que tu la demanderas. Donc ça qui dit, Vaïdar Yaakov Neder, on apprend de Yaakov que c'est bien de faire un Neder Beit Sarah. Lorsque ça ne va pas, c'est bien de faire un Neder. Aspa entièrement le Shem Shabbaim. C'est comme ça qu'on va faire les mitzvot. Au contraire, on a toujours cherché en quoi le Shelo le Shem Shabbaim, il accompagne ce qui est le Shem Shabbaim. Comme ça, après on s'apercevra que on aura besoin de beaucoup d'efforts pour ajouter le lolishma au lishma. Bon, faire des efforts, ça on ne te demande pas non plus. On n'est pas obligé de faire exprès. mais c'est comme ça que ça doit se passer. Il en est de même pour la valeur de la Torah elle-même. La valeur de la Torah elle-même, elle aurait été beaucoup mieux représentée si elle était représentée toujours à travers des gens riches, forts, beaux, intelligents. La Torah, elle se cache. Il faut savoir la découvrir. L'extérieur et l'intérieur sont deux notions différentes. Tout ça, c'est le même tam, la même raison que ce qu'on appelle le Seir Mishtaler. Ce n'est pas la superstition que veut dire j'envoie au Satan. Parce que le Satan, c'est moi. Envoyer au Satan, ça veut dire je suis d'accord que le monde est ainsi fait que s'il n'y a pas quelque chose de pas soul, quelque chose de pas beau, il n'y aura jamais quelque chose de beau. Donc les deux doivent cohabiter ensemble. Mais alors je dois savoir que l'autre n'est pas beau. Si je crois que l'autre est beau, alors j'ai perdu. Je dois savoir que c'est comme ça. Et à partir du moment où je le sais, c'est pas grave que ça cohabite ensemble, c'est obligatoire que ça se passe comme ça. Et vous avez sûrement des questions.
Vous avez dit ce soir, être seul, c'est la liberté. Mais il y a quelques années, vous aviez dit qu'être seul sur une île déserte, c'est le contraire de la liberté. Elle n'est pas bonne.
Elle est bonne. Mais on a dit que quelqu'un qui est seul, il n'est pas libre. Mais on est en train de dire, celui qui est seul, il est libre. Moi, j'ai pas dit qu'il faut être seul. Je dis qu'il faut rechercher la liberté auprès de ses semblables. Et ne pas rechercher la liberté auprès de ses dissemblables. Parce qu'auprès de ses dissemblables, au contraire, c'est une privation de liberté. On n'a pas dit qu'on doit rester seul. On a dit que le peuple juif, ça qui est marqué « Am levada dishkon », c'est, il est à part, mais il y a le peuple juif, on n'est pas seul. C'est vrai que si on est seul, on n'est plus libre du tout. Mais attention, ici on ne fait que dire, on doit choisir sa liberté. Mais choisir de se faire enfoncer, ça, on n'est pas obligé de choisir. Et c'est obligatoire. C'est ce que l'homme dit, « Derech briato chez la dame ». C'est comme ça que l'homme est construit. Il ne peut pas avoir un rapport vrai avec quelqu'un si quelque part, il se met par mal d'équation avec cette personne-là. C'est impossible. Ça déteint. Ouais.
Oui, c'est une question quadrante sur le midrash de Esav et de Ishmael. Je pose la question suivante. Hein, parce qu'on leur dit il ne faut pas tuer, non, je ne veux pas, il faut pas voler. Mais ce n'est pas dans les mitzvot, les sept mitzvot de Noir qui n'ont pas le droit de tuer déjà et de voler. De toute manière, ils n'ont pas le choix.
Oui.
On leur dit juste, on leur amène des choses qu'ils ont déjà pas le droit de faire et qu'ils refusent.
C'est une bonne question. Parce qu'ici, on leur demande un consentement. Les mitzvot des Noirs, c'est pas un consentement. Ça a changé, absolument. Ça veut dire que la personne est d'accord de pas tuer. Pourquoi? Parce que tu m'obliges. Mais tu veux que ça vienne de moi? Non, ça tu peux pas. Moi, je veux pas m'engager. Si tu me demandes un engagement, je suis pas d'accord. Tu me dis c'est une constante, bon, on va voir. Comprenez? Avec un ordre, on s'arrange. Mais avec un engagement, il faut le respecter. C'est ça le brit. Le brit, c'est l'engagement. Lorsqu'il y a un brit, ça veut dire qu'il y a une demande des deux côtés. Je dis, comment je peux faire une demande avec le bon Dieu, moi? Je peux faire un brit. Le fait de me demander pourquoi je suis là et en quoi je fais partie du projet du monde et qu'est-ce qu'il veut de moi, c'est ça le brit. En soi, c'est une demande de brit. Donc, on est ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais.
L'intention action. C'est l'engagement.
C'est ça. C'est que si j'ai l'intention de faire. Ici, attention, c'est encore plus loin que ça. Comment je peux m'engager à faire quelque chose que je ne sais pas, que je ne connais pas? Alors on va dire, on présuppose toujours un petit peu. Je vais travailler pour une entreprise. Je ne sais pas exactement tout ce qu'il y aura à faire, mais j'estime à peu près. Il y a quand même un engagement. Il y a une partie d'inconnu que je suis d'accord d'accepter. Ici, c'est la même chose. Ça veut dire que il y aura des actions à faire, il y aura, je dois prendre l'engagement d'être à la hauteur à ce moment-là, mais je ne sais pas exactement ce qu'on va me demander. Alors je dis, c'est ça le malheur. Il a été créé pour servir de lien, mais quel lien ? Ben, un jour comme ça, un jour comme ça, un jour comme ça. Ça veut dire que l'homme comprend très bien qu'il a été créé parce qu'il fait partie de ce projet-là. Et maintenant, il veut savoir ce qu'on lui demande. Donc, il est engagé. Il est d'accord d'être engagé. Donc, il est engagé, mais il ne sait pas à quoi. Alors, il veut savoir à quoi. Ouais.
Alors, juste dans l'axe, est-ce que vous pouvez expliquer est-ce que la remarque va justifier le parallélisme avec le malheur ? Bon, je trouve ça très intéressant, effectivement. Mais le malheur, tout le monde sait qu'il a une mission. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est un engagement formel dès le départ.
Avant de connaître la mission.
Avant de connaître la mission.
Il y a besoin d'un lien avant de savoir pourquoi.
L'impossibilité de refuser la mission.
Absolument.
Donc, il ne peut pas refuser la mission puisqu'il est créé pour la faire. Et c'est le corollaire même de son existence, à savoir, tu es créé pour faire ça. Par contre, alors, je vais établir un distinguo d'après ce que vous avez dit maintenant, ça m'est apparu, je ne sais pas si c'est justifié, un distinguo entre Israël et le juif, c'est-à-dire l'entité Israël et le juif individuel. C'est-à-dire que il apparaît maintenant clairement que il y a d'une part la mission d'Israël qui serait, d'après ce que vous avez dit, je crois, analogue à celle d'un entité. À savoir, Israël, l'entité Israël a une mission qu'il ne peut pas refuser, quand même. Là. Et alors, la question qui vient subsidiairement, c'est à savoir où est l'espace de liberté. Si le malheur ne veut pas refuser sa mission, il n'a pas l'espace de liberté, il n'a plus liberté. Or, nous savons
que le juif là.
Alors, nous avons l'espace de liberté, mais où se situe-t-il ? Si ma mission en tant que membre d'Israël m'est imposé et que je dois l'exécuter, absolument, je n'ai plus l'espace de liberté apparemment. C'est-à-dire que je ne peux plus rien faire, je dois exécuter ma mission. Alors où se situe l'espace de liberté qui doit exister à notre échelle individuelle? Alors c'est justement pour ça qu'il faudrait introduire la notion de distinguo entre entité Israël et juif individuel. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. C'est-à-dire peut-être que Israël est une sorte de malheur. À savoir l'entité Israël est une sorte de malheur, à savoir qu'il ne peut pas échapper à sa mission.
Mais qui va être Israël, c'est un choix.
Et voilà. Et l'entité, l'individu, lui, doit décider s'il veut faire partie d'Israël. Alors ça amène encore une autre question.
Mais attention, non, là vous avez une question, une immense question. C'est que, qui c'est qui a décidé que l'entité Israël ne peut pas refuser ? C'est le peuple juif, parce qu'il s'est engagé. Parce qu'il a signé le brit. Ça veut dire que...
Je vais vous aussi la décider, parce que dans la mesure où il dit, pour le Mashiach, si vous faites, il viendra avant, si vous ne faites pas, il viendra quand même, plus tard. Ça veut dire que le destin d'Israël est scellé, déjà, d'ores et déjà.
À partir de quand ? À partir de quand ?
La création.
Non. Nasse Venishma. C'est pour ça qu'il y a marqué, Vayire Vayvoker Yom Hashishi. Tout dépendait de ça. Ça veut dire quoi ? C'est vrai que je me suis aligné, il y a une aliénation de liberté en tant que peuple juif. Pas en tant qu'individu, en tant que peuple juif. C'est ça l'assévénichement. C'est ça le rapport avec les malachim. Ça veut dire que le peuple juif, à partir du moment où il s'est engagé, c'est vrai qu'il s'est engagé de sa propre volonté. Mais le geste, c'est le geste d'un malach. Ça veut dire que lui-même a décidé de renoncer à sa propre liberté pour signer une alliance avec le Kadosh Baruch Hu. Mais attention, cette alliance, je la signe au niveau peuple juif, pas au niveau d'individu dans le peuple juif. Dans le peuple juif, on peut sortir, on peut rentrer, on peut...
Voilà.
Tout à fait d'accord.
Et c'est ce qui permet, on peut aller un petit peu plus loin pour donner la notion de schizophrénie du schizophrénie, à savoir, je suis à la fois de deux choses. Et ça me parle un peu clairement maintenant, à ce que j'entendais. À savoir que comment être en schizophrène, c'est quand on est à la fois de deux êtres en même temps, qu'on se croit deux êtres. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer maintenant ? Eh bien, est-ce que je propose c'est que je regarde le peuple juif devant moi, il a une mission, nous venons de dire qu'il a reconnu le signal, et il est engagé dans cette mission. Donc, suis-je partant dans cette mission ou pas? Ça, c'est ma question individuelle. Absolument. Mais en même temps, moi, je suis membre du peuple juif d'Israël. Donc, je suis aussi là-bas. Je suis là-bas parce qu'en tant que membre de l'entité d'Israël, je suis là-bas, je suis dans la mission que j'exécute, et en même temps, je suis dehors en me demandant si j'y suis. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la schizophrénie d'Israël, à savoir je suis.
D'accord, mais attention, là, vous touchez à un problème. C'est le problème de la liberté et du déterminisme. C'est la liberté et le déterminisme. Chacun est libre, mais à travers son déterminisme. Le juif peut quitter le peuple juif. S'il n'arrive pas à le quitter assez vite, il est déterminé, on peut l'exterminer avant en tant que juif. Parce que ça prend plusieurs générations pour quitter. Mais ça, c'est le problème du déterminisme et de la liberté. Alors, j'ai dit, la question, c'est, tu veux participer à ça, c'est, est-ce que tu prends sur toi le brit ou non? Voilà. Mais attention, tu es quand même déterminé qu'il faut quitter le brit. Alors que le non-juif, c'est le contraire. Tu veux venir participer au brit, tu dois rentrer à l'intérieur du peuple juif. Ça, c'est la différence entre les deux. Mais ça, c'est le déterminisme qui détermine la liberté, parce que tout doit être déterminé, même la liberté. Donc on est obligé d'accepter une part de déterminisme. Voilà.
Donc il ne nous reste plus que le choix, je l'ai dit, de décider ce qui est décidé.
Absolument.
C'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'il y a une souffrance.
Mais ça fait très peur. Vous savez pourquoi? Parce que s'il y a une promesse de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Mais regardez jusqu'où ça va. Vous êtes en train de nous dire que si de la part d'Akadosh Baruch Hu, il y a une promesse que le peuple juif existera toujours jusqu'à la venue du Mashiach, peut-être que cette promesse, elle est valable avec deux juifs. Trois. On n'a plus de garantie maintenant. 10, 20. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de garantie. Alors que le juif, il se console en se disant, bon, de toute façon, il est programmé pour... C'est pas vrai, ça dépend de lui.
Pourquoi vous avez dit tout à l'heure que nous étions dans la paracha Asim?
Parce que ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens qui parlent de notre époque, ils se réfèrent à la paracha de Asim. Maintenant, comment c'est comportementé, je ne sais pas exactement. Asim, ça veut dire que c'est près de la fin, c'est ça qui est rassurant. Mais non, on peut chercher, hein. Il y en a qui utilisent les ordinateurs. Avec les ordinateurs, ils cherchent. Tous les deux mots, tous les deux lettres, les... après ils arrivent à trouver. Oui.
Par rapport aux briques, on peut faire la comparaison avec la brique Mila, qu'un petit enfant n'a pas réclamé à faire et qu'on lui fait subir. Et c'est de cette façon-là que le père, quelque part, reconnaît d'avoir accepté, quand il était petit, la brique.
Sa propre brique.
Et il n'y a pas de schizophrénie.
Bon, mais là, ça touche déjà à notre problème. Est-ce que pour accepter ce qu'on m'a fait, je suis obligé de le faire aux autres?
C'est une mitzvah, quoi. C'est un brit.
Ah,
c'est pas,
si, ça.
C'est un brit, c'est pas
une... Ben, on est tellement
c'est
content.
Vrai.
On est tellement content qu'on veut qu'il fasse le contrat aussi.
Ouais.
Vous avez dit qu'on a une question existentielle et qu'on fait un choix et qu'il faut faire des actes. Mais par ailleurs, vous avez dit vous-même que les actes, les mitzvot, le sens, on nous échappe.
Donc, il peut. J'ai pas dit que ça nous échappe. Il n'y a pas de garantie qu'on arrive à trouver exactement le sens.
Parce que je veux dire, trouver un sens à une question par des actes auxquels le sens nous échappe, c'est peut-être...
Je vais vous dire. Le sens profond de la mitzvah, pour le connaître, il faudrait voir son résultat à travers chaque juif et à travers toute l'histoire pour comprendre le sens de chaque mitzvah. Comprenez? Le vrai sens, il est là. Parce que la mitzvah n'est pas indépendant de la création. C'est pas qu'il y a la Torah et puis on fait coller. Ce que le monde a créé, la mitzvah, la Torah, par rapport à ce qui doit être et comment le monde a été adapté exactement par rapport à ça. Ça veut dire qu'un jour on comprendra exactement le sens de la mitzvah en étudiant exactement comment cette mitzvah a pu être faite ou ne pas faite à travers chacun dans toute l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas des petites choses.
En attendant, je fais sans vraiment comprendre tout. Et ça,
en attendant, moi, attention, en attendant, moi, je mets une théorie dessus et je dis, je comprends que la mitzvah, elle a ce sens-là, ce sens-là. Mais si je crois, moi, que c'est le fond du sens de la mitzvah, Je suis très, 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 très heureux.
Mais je donne un sens quand même, enfin, pour pouvoir...
Absolument. Mais il y a des choses où je ne peux pas donner de sens.
Oui.
Le rock, tu prends ou tu laisses. Bon, il y a des choses où on ne peut pas. Ça aussi, c'est le sens de la mitzvah. Vous comprenez? C'est un sens de la mitzvah, ça. De ne pas en avoir. De voir si tu l'as fait ou pas.
Non, parce que, bon, je vais pas compter, mais ce qu'il y a, c'est que quand on ne comprend pas rien, on devient très souvent technique. On fait les choses de manière un peu.
Absolument, c'est pour ça.
Ça perd de... C'est pour ça que je voulais dire.
Absolument. C'est pour ça que ça. Attention, le fait de savoir que le sens est illimité et infini ne m'empêche pas, moi, ma réflexion. Sinon, il ne faut pas que j'ai la présomption de penser que je suis arrivé à la fin. La preuve, c'est qu'une fois je trouve comme ça, après je trouve autre chose, après je vais pouvoir prendre autre chose, après encore un autre sens qui se dégage. On ne peut pas bloquer. On ne peut pas bloquer.
Il faut trouver des
sinon, je veux dire, type, il vient, il mange cachère, c'est plus sain pour la santé. Bon. On en arrive à des choses. Maintenant, ça doit être plus sain pour la santé aussi. Sinon, on ne les aurait pas demandé. Mais
pourquoi?
C'est peut-être pas de ça le fond de l'histoire. Ok, Raksamea.